Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Raconte ta parentalité. Ici, on prend le temps de se souvenir, de se raconter, de se reconnaître. Parce qu'un parent, c'est sans doute un métier difficile, même si ce n'en est pas un, mais c'est aussi un devoir. Alors, pour cette nouvelle année, on va essayer une expérience un peu différente avec deux profils, deux hommes, deux familles, et on va croiser ce qui se passe au quotidien. Et je vais d'abord vous laisser vous présenter. Comment tu vas ?
Ça va super, et toi ?
Très bien. Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bien sûr, je m'appelle Lassane Asso, préparateur mental et papa de deux enfants.
Salut Lassana, heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et toi alors, comment tu vas ?
Ça va, je te remercie.
Est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, Adonis Edgar Nkouri, je suis chauffeur de bus et éventuellement beau-père d'une charmante fille de 19 ans.
Très bien. Alors le concept c'est une petite discussion, on se raconte. Vous êtes aujourd'hui la première édition où on a deux profils, deux hommes qui n'ont pas forcément le même parcours. Mais l'idée, c'est de faire aussi des ponts et des liaisons entre ce qu'on a vécu, la façon dont on a été éduqué et comment on la transmet à ses enfants ou à ses beaux-enfants. Et la première question que j'ai envie de te poser, Lassana, c'est est-ce que tu veux bien nous dire d'où tu viens, de quel milieu, si tu as grandi avec tes parents, sans tes parents, explique-nous un peu qui tu es.
Très bien. Alors, moi, je suis Lassane Asso, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai grandi en banlieue parisienne, exactement à Montreuil. J'ai fait mes classes là-bas. Je suis né, grandi et évolué à Montreuil dans un cadre familial totalement normal comme tout le monde, avec un frère jumeau, parce que j'ai un jumeau, deux petites sœurs et un dernier, un petit garçon, qui aujourd'hui a 25 ans, et avec mes deux parents, tranquillement à la maison.
Super. Et toi, du coup, Edgar, comment, d'où tu viens, qui tu es, comment t'as grandi ?
Alors, moi, je viens de Champigny, cité du Bois-l'Abbé. J'étais avec mes parents et donc j'ai quatre frères et une sœur.
Quatre frères et une sœur.
Ouais, moi, je viens, on est six. Je suis en cinquième position, donc l'avant-dernier. Et donc, j'ai grandi de manière normale, on va dire, et est survenu après la séparation de mes parents. Et tout a commencé à changer.
Ouais. Merci pour cette super transition, Edgar. Du coup, la question que j'aimerais poser à Lassana, c'est justement comment ça se passe dans cette famille. Est-ce que tu es plus proche de maman, de papa? Tu es en quelle position d'ailleurs?
Alors moi,
quelle position, c'est marrant de dire ça.
Grave, je suis en première position.
Ok, bon, donc vous êtes les aînés avec
exactement,
ton frère.
Exactement, dans mon cas on est deux en première position, c'est drôle de le dire mais c'est vrai. Comment ça se passe? Bon, déjà c'est très bruyant, il faut savoir que je suis malien soninké, à la maison ça bouge dans tous les sens. Et plus proche, chez nous généralement c'est la maman, le père c'est le facteur autorité. Mais tout se passe bien, c'est vrai qu'on est très proche de la maman et que le père, il est là comme tout papa normal, quoi.
Ok, et toi, Edgar, du coup, comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu te sens plus proche de maman, de papa, ou est-ce que tu as un lien particulier avec un de tes frères ou sœurs?
Donc nous, on est originaire du Congo, Brazzaville, et donc on est tous nés ici. Et moi j'avais une proximité proche avec le deuxième de mes grands frères qui dans les années 80 a évolué dans ce qu'on appelle le mouvement de l'époque. Donc c'était les bandes et tout ça, donc tout ce qui est RJ, Black Dragon, tout ça. Et de là... j'étais amené à rencontrer beaucoup de figures de l'époque qui aujourd'hui pour certains sont en place Et donc, par rapport à ça, j'étais très proche de lui parce que j'ai vraiment adhéré à ça, quoi. Mm. Donc, l'arrivée du hip-hop en France et tout ça, aller dans les boîtes. J'ai fait mes premières boîtes à 13 ans grâce aux connaissances de mon grand frère, justement. Et au niveau des parents, c'est plus ma mère. Hein, parce que même physiquement, quand on me regarde et quand on la regarde, il n'y a pas photo, quoi. Et à partir de là, il y a eu un parcours. Alors, c'était avec mon frère en même temps, je suivais sur ses traces, mais on n'était pas spécialement fusionnels. C'était vraiment, vous savez, à l'époque, il y avait vraiment une différence.
De hiérarchie.
Ouais, de hiérarchie. Puis, tu sais, quand t'es le grand, tu traînes pas avec les petits traînent pas avec les grands, quoi, tu vois. Et même quand t'es grand. Là où ils sont, les petits ne restent pas autour, quoi. Mmh. C'était vraiment comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On peut remarquer que il y a des grands qui traînent avec des petits, mais à l'époque, ça se faisait vraiment pas. Et donc.
C'est dans ce contexte-là que tu évolues.
Ouais, ouais.
Lassana, je me retourne vers toi. Est-ce que là, tout de suite, de façon assez spontanée, il y a un souvenir d'enfance qui t'a marqué, que tu as envie de partager avec nous? Ça peut être un moment joyeux, juste une anecdote. Ça peut être aussi quelque chose qui t'a marqué, frappé.
Vu qu'on parle de la parentalité, ce qui me frappe directement, c'est, comme je le disais tantôt, c'est que je suis malien. Mmh. Soninké, pour ceux qui connaissent, on est assez fiers sur nos valeurs. Et puis, l'homme, c'est l'homme. Mmh. C'est une petite anecdote comme ça qui va sortir, mais je pense que les Maliens vont comprendre. C'est que moi, quand j'étais petit, je voyais mon père faire le ménage. Mmh. Il nous dégageait tous, on habitait en duplex. C'est rentré, il dit, enlevez vos chaussures, vous montez là-haut, je vais faire le ménage. Et ça, j'ai toujours gardé parce que j'avais toujours cette image du père qui est juste fouettard et surtout pas le ménage, quoi. Mais c'est plus ça qui m'a peut-être orienté sur mon caractère aujourd'hui, qui fait que on peut avoir les deux côtés en étant un homme, quoi. Donc voilà une petite anecdote.
Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis et je pense qu'on y reviendra quand on va parler de l'homme que tu es.
Exactement.
Aujourd'hui. Le fait de voir son père faire le ménage, c'est pas anodin sur le comportement qu'on va adopter plus tard,
non,
que soi.
Exactement.
Ado, pareil, est-ce que tu as un petit souvenir d'enfance comme ça, quelque chose que tes parents, tes frères et sœurs ont pu faire qui t'a marqué?
Oui, bon, moi, c'est surtout mon père, quoi, ouais. C'est à l'époque où nous, on vivait tous ensemble, oui. Je voyais mon père, effectivement, préparer des repas. Je voyais mon père, effectivement, comme un peu comme son père, nous donner des directives, hein, par rapport aux règles de la maison. Et une fois que... Ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est resté quand même parce que c'était des images fortes et que effectivement par rapport à une culture africaine, hein, que ce soit de l'Ouest ou de l'Est, il y a des similitudes au niveau de la structure familiale, quoi qu'il arrive, au niveau de l'homme, parce que souvent on parle du patriarcat, mais ce qu'il faut savoir c'est que culturellement dans la région des Grands Lacs, pendant très longtemps c'était un système matriarcal qui est resté. Mais en fonction de ça, j'ai vu mon père effectuer des tâches dites ménagères à la maison. Exactement. C'était pour soulager aussi un peu ma mère qui a élevé 6 enfants. Hein, comme il partait au boulot, c'est une époque où on n'était pas aux 35 heures aujourd'hui. Donc il était plus souvent au boulot qu'à la maison. Donc, quand il rentrait, il contribuait aussi. Et ça, c'est resté.
Ça, c'est resté.
Ouais, c'est resté. Parce qu'après, une fois qu'il y a eu la séparation, et donc, c'est arrivé plus ou moins tôt dans notre jeunesse. Donc, du coup, après, j'ai l'image plus récente de la maman qui fait tout, quoi.
Mais du coup, quand cette séparation arrive, vous avez... Toi, t'as quel âge? À peu près.
À peu près, j'ai entre 14 et 15 ans.
Donc, tu es un adolescent.
Ouais.
Ok, et du coup, tu vas reproduire ce schéma, aider maman, vaisselle, course, ménage, cuisine.
Absolument.
Et
Absolument.
tous, filles comme garçons?
Pour les plus grands, ouais, on est tous passés par là en fait.
Vous êtes tous
Ouais.
passés.
Parce que ma mère était assez exigeante sur ça. Mais après, au fil du temps, moi, c'est resté. Mais pour mes frangins,
C'est parti, ça
ça
s'est
s'est estompé, ouais.
effiloché.
Mais chez ma sœur, c'est resté
C'est
ça.
resté.
Ouais.
Et toi, Lassana, du coup, à la maison, est-ce que tout le monde participe aux tâches ménagères? Est-ce que la répartition te semble équilibrée et juste ou est-ce qu'elle est genrée?
Elle est totalement genrée chez nous. Elle était totalement genrée. Et après, je rebondis un peu sur ce qu'il a dit. C'est que nous aussi, il y a une séparation quand j'avais 19, 20 ans par là.
Ok, donc tu es un jeune adulte.
Exactement. Et non, non, la répartition des tâches, elle était genrée. Hein. C'est les garçons, vous allez mettre les poubelles. Il n'y a pas
Ouais.
le choix. Et les filles, vous allez faire la vaisselle et le ménage. Même si de temps en temps, bah, comme je disais, mon père, il le faisait. Etc., ils faisaient à manger et tout ça, mais par rapport aux enfants, c'était cadré.
C'était cadré.
Ouais.
Aujourd'hui, tu as deux enfants, fille, garçon, garçon,
Deux
fille,
garçons.
deux garçons. Donc, du coup, bah, la question ne se pose pas du genre
Oh,
dans
non,
les tâches ménagères.
non.
Ils participent.
Totalement.
Et du coup,
Totalement.
comment vous avez amené les choses? Qu'est-ce que tu dis à tes garçons? En quoi ils participent? Quel âge ils ont?
Alors, le dernier, il a 1 an,
Ok.
le plus grand, il en a 7. Et faut savoir, moi je suis plutôt dans l'exemplarité. Donc avant de lui dire quoi que ce soit, il faut que, comme moi je l'ai appris, il faut qu'il me voie le faire.
Ok.
Donc depuis tout petit, il me voit le faire. Et je lui dis, regarde, si papa il peut le faire, toi aussi tu peux le faire. Ça commence par quoi? Par ses jouets qu'il laisse un peu partout. Quand il mange, il doit juste débarrasser. Et petit à petit, de lui-même, il dit, attends papa, je vais essayer de faire la vaisselle par exemple. Je dis, ok, tu fais pas toute la vaisselle, mais ce que tu as pris, ton couteau ou quoi, tu commences à nettoyer, laver, tout ça. Et petit à petit, voilà, ça, je lui mets
Il
un
apprend
peu dans le
doucement.
truc, c'est que maman, elle est fatiguée aujourd'hui, ça serait bien que tu prennes au moins le balai juste pour ranger cette partie-là. Et voilà comment on essaie de lui inculquer ça aussi. Après, il faut savoir que c'est un jeune.
Il est encore tout petit, mais c'est là qu'on plante les graines, comme on dit.
Exactement.
Edgar, toi, ta fille, elle a 19 ans. Est-ce qu'elle participe à la maison? Comment ça se passe du coup?
Elle participe comme un peu, parce que bon, sa mère est bien présente, je suis là aussi. Et donc, ben ouais, hein, quand elle participe, surtout quand nous sommes pas là.
Ok.
Voilà, surtout quand nous sommes pas là, bon, ben, elle fait ce qu'il y a à faire, d'autant qu'on a des animaux, on a
Donc elle
beaucoup.
s'occupe des animaux.
Ouais, tant bien que mal, hein, surtout quand on n'est pas là, quoi. Et parce que autrement qu'on est là, ça va. On s'occupe de tout, surtout sa mère qui fait énormément. Et donc, parce qu'elle travaille aussi maintenant.
Elle travaille,
Elle
ouais, parce
travaille,
que
hein.
du coup, 19 ans, c'est l'âge aussi où on se lance dans l'orientation, enfin les études. Souvent, on a
Ouais.
un petit boulot à côté.
Elle
Donc.
fait effectivement, elle fait des études et elle travaille à côté. Donc elle-même, elle a un emploi du temps assez chargé.
Ok, donc en fait, vous la faites participer, mais en tenant compte de son emploi du temps chargé, on va
Exactement,
dire.
exactement.
La question que j'ai envie de vous poser maintenant, les garçons, je me retourne vers toi, Lassana, c'est quelles étaient les valeurs fortes qui, pour toi, ont été transmises par tes parents?
L'entraide.
L'entraide.
L'entraide à la maison, c'était primordial. C'est comme une équipe. Et il ne nous le disait pas comme ça, mais il nous le faisait comprendre. C'est que vous êtes des frères et sœurs et vous devez le rester quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est dans tous les aspects de la vie. Hein. C'est les courses, même si on dit que, par exemple, on disait les tâches ménagères étaient genrées, bah, ton frère, il n'est pas là, fais-le à sa place. Vas-y, il n'y a pas de souci. Les devoirs, vous devez les aider. Vous êtes les plus grands, vous devez aider les plus petits. C'est pour tout et n'importe quoi. Mais il ne fallait pas que les parents voient ne serait-ce qu'une seconde que tu n'es pas là pour ton frère ou pour ta sœur.
Ok, donc c'était très important pour eux que vous soyez
Exactement.
soudés et que vous soyez dans l'entraide les uns des autres.
Totalement, totalement.
Et est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, reste avec les années ou est-ce que, comme dans beaucoup de familles, en fait, bah, finalement, même si nos parents nous transmettent des valeurs fortes, bah, quand on devient adulte, on fait aussi nos propres choix et des fois, on suit pas forcément l'exemple. Est-ce que toi, tu pourrais dire que c'est quelque chose qui s'applique comme quand vous étiez petit ou est-ce que ça évolue aussi avec le temps ?
Ça évolue avec le temps, mais dans notre cas, je dirais que ça s'est intensifié parce qu'aujourd'hui, on est plus mature. Du coup, tout le monde est plus ou moins marié dans la maison, tout le monde a ses enfants et on se dit les choses aujourd'hui. Donc, ça clash beaucoup. Mais dans la seconde qui suit, on va chercher une solution pour régler la chose.
Ok. Mais du coup, dans ce que tu dis, est-ce qu'on entend quelque chose aussi de l'ordre de la communication ? Ça veut dire que, ok, ça clash, faut pas avoir peur de se,
ah
de
ouais,
se prendre
chez nous, non, faut
les
pas.
Balles.
Non, non, non.
Mais de l'autre côté, une fois que les choses sont dites, on essaye de solutionner et de rester dans cette entraide.
Exactement. Okay. Ça, c'est rester. Et moi, je suis fier de ça parce que je me dis, même si on est un peu éloignés les uns des autres, aujourd'hui, moi, j'habite à Bordeaux. La plupart sont à Paris, mais c'est comme si j'étais avec eux à la maison comme avant. Quoi.
Mmh,
parce
mmh.
qu'on est au courant de tout. Et quoi qu'il arrive, on trouve des solutions. Et si on n'en trouve pas, on va chercher jusqu'à faire en sorte que tout le monde aille bien. Quoi.
Ok. Edgar, et toi, quelles étaient les valeurs fortes, selon toi, qui t'ont été transmises par ta famille ?
C'est le respect.
Le respect.
Le respect, avoir un bon comportement. Ensuite, notre père, il nous disait toujours que de par là où on évolue, de par notre condition, je veux dire, d'origine, l'africanité, compte tenu de l'histoire colonial qu'a subi le pays, tout ça. Donc, il nous disait toujours que notre évolution passerait par le travail. Il nous disait toujours que il est exigeant sur l'école. Enfin, nous, tête dure, complètement, on n'a pas vraiment écouté. Énormément de choses que mon père nous disait étant plus jeune, que je ne comprenais pas spécialement sur le coup, que j'ai fini par comprendre en étant adulte, via des chemins par lesquels je suis passé, auxquels il y a eu des conséquences qui m'ont fait comprendre à ce qu'il me disait, c'était ça. Parce que lui, étant venu en 69 du pays, avec mes parents, il avait un groupe de musique. À l'époque, les Congolais, c'était les vagues d'indépendance, il y avait beaucoup de groupes de musique, ils étaient censés travailler avec des médias de l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein. Et moi, je voyais mon père à la télé dans des émissions de musique, à FR3, avec des artistes comme Yves Simon, Manu Dibango de l'époque. Et donc, nous, on était fiers. Ouais. Mais à côté de ça, il y a une certaine réalité qui fait que il y a eu des grosses désillusions. Quoi. Mmh. À partir de là, les valeurs, elles sont restées, mais la désillusion fait que ça pourrait s'assimiler à la chanson de Mylène Farmer, Désenchantée. Quoi.
Mmh. Il y a quelque chose de très fort et de très intéressant dans ce que tu as dit. Tu as parlé justement de la notion de respect, mais tu as aussi parlé du message qu'essayait de vous porter, en tout cas votre papa, qui n'est pas entendu. Et du coup, ça serait peut-être intéressant de s'arrêter sur ça 30 secondes, puisqu'on parle d'éducation, de parentalité. Ça veut dire que des fois, on dit des choses qui semblent tellement logiques pour nous. Tu vas devoir travailler à l'école, tu vas devoir être respectueux, etc. Et qui résonnent creux chez l'enfant. C'est un peu ce que tu décris. Ça veut dire qu'il nous dit des choses, on les entend, mais on n'en fait qu'à notre tête. Et c'est à l'âge adulte qu'on comprend. Comme si, en fait, il avait peut-être manqué le « pourquoi je te demande ça ?» Qu'est-ce qui fait que ça sonne creux à l'époque ? Et que malgré les avertissements, pour l'enfant, en fait, ce qui semblait être évident pour le parent ne l'est pas.
En fait, ça s'explique par leur réalité à eux et leur vécu. C'est-à-dire qu'ils ont vécu une époque où même nous, mon premier grand frère, en dehors d'Olivier qui a toujours lui évolué au bled, que ma mère a eu jeune, nous ici, mon premier grand frère, il est de 70. Donc quand tu es en France, tu arrives dans les années 70, en France, il fait plus ou moins bon vivre. Or que ce n'est pas la réalité de leur jeunesse. Eux, ils ont connu la colonie, c'est-à-dire que quand ils étaient au bled, quand ils allaient dans une administration, Voilà, c'était des Français, c'était des donc ils ont connu une autre réalité où auquel ils ont été confrontés à pas mal de choses qui, quand ils sont arrivés ici, ils ont essayé de nous mettre en garde, mais c'était pas palpable pour nous dans la mesure où nous n'avions pas connaissance de ces choses-là. On les a su beaucoup plus tard et nous les avions pas vécues surtout. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand on a commencé à aller à l'école, toutes ces histoires de « ouais, t'es blanc, t'es noir », tout ça n'existait pas.
Ouais.
Il faisait bon vivre, on était tous ensemble. Dans les quartiers à l'époque, vu que c'était l'émergence des grands ensembles, des cités HLM, parce qu'avant c'était des bidonvilles, donc c'était plus ou moins une ambiance village. Que tu sois portugais, que tu sois maghrébin, que tu sois africain, on était tous ensemble.
Il y avait c'était beaucoup plus de diversité.
Voilà, et c'était comme une famille. Donc, il n'y avait pas ces histoires de distinction, de blanc, de religion, tout ça. Tout. Donc, et tout ce qui pouvait en découler de ces choses-là. Mais la génération de mes parents, parce que ça ne concerne pas que mes parents, c'est toute une génération, eux avaient déjà été confrontés à ce genre de choses de manière beaucoup plus virulente que nous, on pourrait connaître par la suite. Eux, ils avaient déjà été confrontés, par exemple, à la discrimination à l'embauche, rien que par ces petites choses-là, qui étaient inexistantes pour nous à l'époque, vu que y avait encore, dans le pays, il y avait des lois pour la famille. Hein, c'était une époque où on favorisait justement les familles. C'est pour ça qu'après, ils ont mis ensemble le regroupement familial et tout ça. Donc, il y avait une politique de la famille qui aujourd'hui, somme toute, n'a plus. Et ça se ressent
dans les propos, les parcours et les conseils.
Oui, les conseils. Et même ce qu'on peut voir d'une manière générale dans la réalité de tous les jours. Quoi. Hein, à travers de certains faits divers, quand on parle d'enfants, oui, issu de famille monoparentale, cet enfant, il a fait ci, il a fait ça. C'est des conséquences de toutes ces choses-là qui, à l'époque, n'existaient pas. Moi, je suis né en 75, donc les années 80, c'était excellent. En France, il faisait bon vivre encore. C'était une époque où tu pouvais laisser ta voiture ouverte et on n'allait pas te voler ton poste. C'est une époque où, quand tu es un enfant agité, n'importe quel adulte pouvait dire hey, fais pas ça. Et
on parle d'éducation collective là, du coup.
Exactement, exactement.
Ce qui me donne envie de rebondir, Lassana, tu vois, par exemple, Ado nous a donné un exemple où il disait nos parents nous donnaient des conseils, essayaient de nous aviser, ce qui résonnait pas forcément à l'époque, mais a résonné bien plus tard. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel toi aussi tu te reconnais, ça résonne en toi ou pas du tout?
Si, totalement. Et puis c'est très bien les exemples qu'il a donné, c'est qu'à l'époque, bon, après, je suis plus jeune que lui, donc les années 80, je ne connaissais pas. Mais j'ai grandi un peu dans ce circuit-là. Je pense que c'était un peu la fin aussi de cette génération-là. C'est que on n'a pas grandi avec des différences. Non. Enfin, clairement, il y avait de tout, toutes les religions, toutes les couleurs, et on n'était pas attardé sur ça. Seulement, c'est qu'en dehors, les parents, ils avaient une autre vision, en fait. C'est quand tu sortais, respect des adultes. Ça, je ne veux pas entendre que tu as manqué de respect à qui que ce soit. Ça, c'était la règle d'or. Et puis, les règles de la maison. Je te dis ça, c'est quand je te dis 19h, c'est 19h. Il n'y avait que ça. Du coup, tout le monde était impacté par ces règles-là. Tu pouvais sortir, il y a un parent ou un tonton qui habite à l'autre bâtiment, il te dit A, c'est A. Aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué. On en parlait un peu en off. Même si tu vois l'enfant de ton ami de l'autre côté qui fait une bêtise, avant de le reprendre, tu vas réfléchir. Parce que tu ne sais pas comment il va le prendre. Donc déjà, entre guillemets, l'éducation collective, aujourd'hui, elle a changé.
Tu trouves qu'elle se perd un peu?
Beaucoup.
Ouais.
Moi, je pense que c'est un des premiers dangers, je pense, pour l'éducation de nos enfants, que ce soit à l'école ou dehors. Parce que je pense qu'on est amené, pour le bien collectif, de revenir sur ce genre d'éducation.
Du coup, c'est intéressant ce que vous dites, les garçons, et j'ai envie même d'aller, avant d'aller un peu plus loin, dans justement l'impact que ça a sur l'éducation, sur la société, sur le collectif, mais de revenir aussi sur des choses qui me semblent assez essentielles. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est bah, justement, dans vos foyers, chez vous, quelle était la place de l'amour, de la tendresse ou de l'autorité? Parce que je pense qu'à partir de là, on découle beaucoup de choses sur ce qui va se passer à l'extérieur. Ça commence un peu à la maison. Et j'aimerais, alors, qui souhaite se lancer, se lance, mais quelle était la place déjà de l'amour chez vous? Est-ce que comme beaucoup d'enfants, elle se disait pas, elle se ressentait. Il y en a même qui, elle se disait pas, elle se ressentait pas. Ou est-ce qu'elle était audible, palpable, les câlins? Quelle était la place de l'amour dans vos foyers?
Je vais rebondir. Moi, pour moi, elle a eu une trajectoire. Alors, il y a l'enfance où elle était difficilement palpable. Donc déjà par rapport au côté père, on peut dire qu'elle était inexistante. Du moins, elle était retranscrite d'une autre manière. C'était par l'éducation, plus ou moins la dure. Je t'aime, du coup, je te force à. Là, tu ne peux pas le comprendre en étant jeune, c'est impossible.
Donc pour toi, c'est comme si, en tout cas, le ressenti, il est... on n'est pas dedans.
Et comme il le dit, c'est après que tu comprends. C'est quand tu grandis, quand tu commences à avoir tes premières expériences. Et là, ça revient tout de suite comme un flash. Tu dis, en fait, c'était pour mon bien.
Exactement.
Et par contre, la mère à l'époque, c'est... comme on dit chez nous, c'est la mère. Tu as plus peur parfois de la mère que du père. Parce que quand la mère elle rentre dans la chambre, elle ouvre la porte, le premier réflexe, c'est la couverture. Elle te dit,
c'est chaud.
C'est chaud. Par contre, c'était la douceur aussi. Et plus je grandissais, moi aujourd'hui, ma mère, j'appelle ma meilleure amie. J'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai deux enfants, je suis marié. Mais c'est mon cœur, quoi, tu vois. Mais c'est petit à petit que les gestes ont commencé à venir.
Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont l'impression, justement, que la démonstration de l'amour, elle arrive un peu en même temps que tu as prouvé que tu étais un homme, tu deviens père. Et là, elle se démontre ou pas du tout?
Totalement. Franchement, c'est à partir de là où, entre guillemets, tu as fait tes preuves auprès de tes parents, où ils peuvent commencer à te faire confiance sur certaines choses, où, encore, on parle de démonstration, il ne faut pas aller trop loin, parce qu'ils ne vont pas te... machin. Les « je t'aime » chez nous, c'est mollo mollo. Je vais te dire, c'est maintenant qu'on commence à dire, par exemple avec ma mère,
« je t'aime »,
des bisous, des câlins. C'est
depuis récemment. Combien de temps, genre?
Allez, on va dire 10 ans.
10 ans, ok.
10 ans où c'est libre, clairement. Mais avant ça, c'était... C'est pas dans notre...
C'est pas comme ça que t'as été éduqué, en tout cas.
Non, mais je ressentais de l'amour de mes parents. Différemment. La mère, c'est la protectrice, et puis elle faisait tout pour nous. Et j'ai eu de la chance, parce que elle était beaucoup dans la com, dans la prévention. Il n'y avait pas de tabou. Ça, par contre, je suis fier de ça, parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que les démonstrations palpables, c'est venu...
Sur le tard.
Ouais, sur le tard.
Et toi, ado, du coup, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que tu le palpes? Comment ça se manifeste dans la façon dont tu as été éduqué?
Alors, bon, ben, par rapport à...
Il y a plein de similitudes dans vos parcours.
Ouais, mais bon, et comme il a dit, donc nous, on est beaucoup plus vieux, on est plus dans une génération où c'est tabou. On ne parle pas de sexualité. Le daron, c'est... enfin, mon père, c'est élevé à la dure. J'en veux pour preuve... je vais te donner
une anecdote.
Une anecdote.
Vas-y.
On fait des conneries, on se retrouve au commissariat, on est mineur, les flics, ils appellent. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a fait ça. Gardez-le! Bam, il raccroche, quoi. Voilà, c'était cette génération de parents-là. Et... voilà, c'était tabou, il te dit les choses. Oui, alors, il y a de l'amour, mais c'est un amour où c'est dans l'éducation à la dure. Voilà. Et c'est plus tard que tu comprends que, effectivement, il y avait de l'amour, c'était pour son bien. Après, c'est une génération, c'est typiquement africain, en fait. C'est typiquement africain, c'est... qu'il n'y a pas de distinction. À ce niveau-là, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de distinction entre l'Ouest et le Centre ou le Sud. Et c'est vrai que du côté de ma mère, il y avait beaucoup plus...
De tendresse.
Oui, d'avenance. Ah, c'est mes enfants. Nan, nan, nan. Et il faut... Faut bien le reconnaître que une bonne partie de mon enfance, j'ai été plus ou moins le chouchou.
Bah, t'es l'avant-dernier en plus, hein.
Je suis l'avant-dernier, ouais. Bah, parce que après, j'ai des souvenirs que quand mon petit frère il est arrivé, j'ai un peu perdu cette position de chouchou. Il y en avait que pour lui. Ça lui a pas trop porté chance, ou en tout cas, ça lui a pas trop servi quand on. Quand je vois aujourd'hui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, ouais, c'est. Après, il y a quand même eu. Dans tout ça, il y a quand même l'instruction, les valeurs, quoi. Voilà. Mmh. Et voilà, il y a quand même tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que. On est une génération où, quand on était à la maison, on avait un certain comportement. Mais dès qu'on sortait, parce que on peut pas, je ne peux pas dissocier mon environnement. Mmh. Et l'environnement, c'était le quartier, quoi. Et quand on sortait, ma mère pouvait très bien dire que je suis un ange et que des gens dans la rue lui disent « Mais non, c'est pas ton
fils. » »« C'est pas un ange, ton fils. »
Voilà, exactement. Et bon, ben, j'étais pas une exception, en fait, par rapport à notre environnement. J'étais vraiment pas une exception. Et... malgré ça, quand même, étant dehors, même si j'étais une autre personne, il y avait quand même ce que mes parents m'ont inculqué quand même. Mmh. C'est-à-dire que effectivement, il y avait le respect des anciens, c'est-à-dire que même étant majeur, avant de quand on était dans le quartier, il y a certaines choses que qu'on on évitait cache. De faire, voilà, qu'on cachait. Quand il y avait les parents d'autrui qui passaient. Mmh. Voilà, à l'époque où on était dans les halls, parce que j'ai vécu cette époque-là aussi, on ouvrait la porte, voilà, quand le parent d'un tel, on portait les courses. Et c'est marrant, j'ai une anecdote, parce que il n'y a pas plus tard que deux jours, je me promenais à la cité comme ça. « Oh, vous êtes le fils à Victoire ?» J'ai dit « Oui, 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 on n'a pas arrêté de m'attendre. »« Oh, c'était bien à votre époque, aujourd'hui les jeunes ne respectent plus rien, vous vous respectiez au moins. » Voilà, je reçois des messages comme ça, quoi.
Quand tu vas voir ta maman,
ouais,
qui est toujours, du coup, au Bois l'Abbé.
Toujours, toujours.
D'accord.
Et donc, même quand je vais là, je vais boire un café au bar du centre. « Ah, mais c'est le fils à Victoire, oh, mais ça fait plaisir de te voir. Alors, t'as déménagé ?»« Oui, j'ai déménagé, je me suis marié. »« Ah, tu t'es marié, c'est bien !» Tu vois.
Et, un peu l'enfant de tout le monde. Un peu ouais. L'enfant des voisins, des voisines. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent quand on discute, on confronte souvent les générations alors que finalement, il y a notre perception. Du coup, la Sana, toi, t'es bien plus jeune, t'as 35 ans. Là où Ado, on a quasiment 50. Comment toi, tu entends ? Comment ça résonne en toi, ce qu'il dit ? Est-ce que t'as l'impression que bah, déjà, à ton échelle, ta génération, bah, vous étiez déjà plus... dans ce respect des anciens, dans ce cachet, ou est-ce que pour toi c'est encore une réalité ? Si, nous aussi on a vécu ce respect et cette éducation collective aussi.
Je pense que nous on était le début de la transition en fait.
D'accord.
Clairement. C'est que on l'avait et on l'a toujours pour la plupart, mais c'était en train de tomber. Nous c'était la fin en fait de ce.
Vous êtes les derniers.
Exactement. Nous sommes les derniers et puis. Vu qu'on parle du sujet, tu le vois sur aujourd'hui nos enfants.
Mmh.
Tu vois clairement le résultat des derniers, entre guillemets, de la famille qui sont un peu pourrigatés, qui se laissent un peu distraire par leur quotidien, l'environnement, et puis qui prennent plus ou moins que les mauvais côtés, quoi.
Mmh, mmh.
Et comme il le dit, c'est un exemple bateau, tenir la porte aux parents, à n'importe qui, parce qu'il doit rentrer ou bien prendre les courses. Nous sommes les derniers, il y en a beaucoup aujourd'hui qui le font
plus. Qui le font plus.
Ah non. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une cassure même entre nous, de la même génération, où il y en a qui ont gardé ces valeurs-là, et les autres qui se sont dit, non, ça y est, je fais ma vie, comme on dit aujourd'hui, je fais ma vie, les autres autour, c'est que l'individu, ouais, c'est que mon individu, je fais ce que je veux, et puis les règles d'avant, d'antan, des parents, je veux plus rien avoir à faire avec ça.
C'est intéressant dans ce que vous dites, les garçons, parce que du coup, on parlait de la démonstration de l'amour dans les foyers. Donc, en tout cas, là, sur vos deux témoignages, vous l'avez perçu et vécu comme une démonstration qui arrive un peu plus sur le tard, mais qui se démontre plus dans une forme d'autorité ou de cadrage. Mais alors, sortons de la sphère familiale, comment elle vient se manifester à l'extérieur, dans le quartier, à Montreuil ou à Champigny, pour vos deux cas, mais comment elle vient se manifester à l'extérieur? Ça veut dire que, est-ce que justement cette démonstration d'amour dans les amitiés, à l'extérieur, elle existe ou elle n'existe pas? Parce que du coup, on se forge aussi avec cet amour qu'on reçoit. Donc si on ne nous dit pas « je t'aime » à la maison, qu'on ne nous fait pas de câlins, etc., est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à trouver à l'extérieur à l'époque ou pas? Ou est-ce que vous, en tout cas dans vos cas bien précis, vous grandissez vraiment avec ce truc de « on ne se dit pas « je t'aime », on ne se fait pas de câlins » à l'intérieur comme à l'extérieur? Ou est-ce que c'est... contrebalancé par le fait que bah, des fois, on a un animateur ou une animatrice qui est un peu plus câline, qui est un peu plus dans la démonstration de la tendresse, etc. Est-ce qui nous qui permet d'avoir un équilibre ou pas? Dans vos cas précis. Hein, ben...
Moi, je ferai pas... Ouais, dans mon cas précis, parce que je ferai pas de...
De généralité, de généralité, on peut pas. Sûr.
Parce que... Il y a eu... Ben, toi, tu quand tu n'es pas confronté à ça, mais que tu vois que ça existe,
c'est ça.
Eh ben, tu t'interroges, tu te poses des questions.
C'est ça, parce qu'on a des copains, des copines à l'époque où on voit les parents qui viennent les chercher, les câlins. On voit aussi, par exemple, quand tu fais une bêtise, le lendemain, quand tu en reparles avec tes copains, bah, les sanctions n'ont pas été les mêmes.
Ben, quand c'est comme ça, tu as tendance à penser que l'autre...
est plus aimé.
Pas spécialement, mais qui est bizarre, parce que on se réfère par rapport à ce que nos parents nous... c'est ça le modèle. Et donc, quand tu es jeune, le modèle de tes parents, c'est la vérité. Ça fait office de vérité absolue. Donc, à partir du moment où cette vérité, tu rencontres une autre vérité, parce que... voilà. Eh ben, ça te paraît bizarre, quoi. Tu dis que l'autre, c'est... Tu te dis oui, c'est comme si c'était un ovni, quoi, en fait. C'est, je symbolise, mais oui. En gros, c'est ça. Et c'est vraiment l'âge adulte où quand tu arrives à une certaine maturité que tu arrives à avoir ce discernement. Parce que tout est une question de discernement. En fait.
Après, pourquoi j'insiste? Parce que pour le coup, toi, tu es né en 75. Ça veut dire que déjà, le quartier en 75 n'est pas le même quartier qu'en 2000. C'est-à-dire que dans la diversité, dans les cultures, dans les façons de faire, ce n'est pas la même chose. Donc, tu disais tout à l'heure, par exemple, il y a des familles portugaises, il y a des familles africaines.
Même dans la mentalité.
Des familles françaises qui vivent dans ces grands ensembles. Et du coup, cette manifestation de l'amour chez toi n'est pas la même que chez ton ami Eric, Edouard ou Mohamed.
Alors, elle n'est pas exactement la même, mais elles se rejoignent. C'est une mentalité globale.
Globale, donc tu dirais que c'était... Toi, en tout cas, de ton prisme d'enfant, tu as l'impression que tout le monde autour de toi avait un peu cette référence éducative via la démonstration de l'amour et de la tendresse.
Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces années-là, tout ce qui est aujourd'hui qui est banalisé... Allez, dans ces années-là, c'était tabou, on n'en parlait pas.
Tabou ou il y a ou plus. Enfin, on parle de tabou ou de pudeur.
Les deux. Okay. Parce que c'était la règle d'or, la pudeur.
Okay.
À la base, déjà, c'était la règle d'or, la pudeur. Et effectivement, certaines familles pouvaient aborder ce genre de choses, mais c'est parce que dès lors, c'était des parents où ils avaient déjà des notions de pédagogie, où souvent c'est des familles où un des parents est professeur, ou vous savez, où c'est travail dans des services associatifs ou de la jeunesse.
Il y a déjà une éducation à la tendresse, à l'amour.
Voilà.
Du coup, je me retourne vers toi et je te pose la même question, parce que du coup, toi, à ton époque, bah, du coup, le visage de la cité commence à se modifier. En fait, hein, on a une désertification de certaines populations dans les cités, c'est le cas. Et est-ce que toi, tu as l'impression que du coup, le modèle et le schéma que tu vis à la maison, il est le même pour tout le monde? Ou est-ce que déjà, enfant, tu te rends compte que OK, moi, à la maison, les câlins, les « je t'aime » ne pleuvent pas, mais pourtant, j'ai des copains, des copines pour qui la démonstration de l'amour, en fait, elle se fait sur l'espace public.
Effectivement. C'est exactement ce que tu dis. C'est que nous, notre génération, en tout cas pour ma part, moi, personnellement, je commençais à le voir. Déjà la différence. Parce que après, en étant plus dans le sport et tout ça, tu vas en déplacement, tu vois autre chose, des jeunes de ton âge et tout ça. Et tu vois qu'il y a des choses, comme il le dit si bien, bizarres pour toi. Parce que tu n'as pas grandi, tu ne connais pas ça au quartier, tu ne vois pas ça. Toutes les maman se ressemble, tous les papas se ressemblent, mais quand tu sors un peu de là, tu vois qu'en fait, il y a des câlins qui traînent, des bisous, tu tiens vraiment la main à ton enfant, tu l'emmènes jusqu'au truc, tu lui enlèves les crampons.
Ouais, c'est ça.
Et là, tu dis, mais c'est bizarre l'histoire, là, parce que pourquoi ils lui font ça? Pourquoi lui, il aurait droit aussi? Il aurait droit à ça, pas moi. Pourquoi moi, à la maison, on ne fait pas forcément ça? Mais ce n'est pas des questions que tu te poses sur le coup, en fait.
Ouais, c'est plus tard.
C'est plus tard. Tu arrives sur le coup. Et en plus, on est tous, entre guillemets, en équipe. Et nous, on a grandi tous de la même manière. Ce qui se passe, c'est... Wesh, bizarre, lui.
Il est bizarre, lui.
C'est, il fait le bébé, lui. On a 14-15 ans.
C'est ça.
Un enfant, lui. Ouais, sa mère lui fait un câlin. Mais c'est un malade, lui, quoi. Devant tout le monde. Ah, la honte. Mais ouais. Mais en grandissant, tu te dis, mais...
En vrai.
Pourquoi on parlait de honte, en fait, clairement? Pourtant, on ne nous a pas parlé de honte par rapport à ça.
Non, on t'en
a pas
parlé.
À la maison, on t'en a pas parlé du tout. Mais de toi-même...
C'est la définition que tu t'en fais, en fait.
Exactement. C'est exactement la définition de l'amour.
Merci. Merci, franchement, pour ces témoignages, parce qu'on en parle peu. Mais du coup, même enfant, même si on n'a pas la lecture et qu'on ne le définit pas, bah, on le ressent. Et du coup, il y a les émotions qui vont avec. Bah, du coup, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Quand on regarde les jeunes qui s'entretuent, quand on regarde les jeunes qui se perdent un petit peu des sentiers, en tout cas de ceux qu'en tant que parents, on essaye de faire en sorte qu'ils comprennent, qu'ils s'accrochent aux études, qu'ils aient une projection. On voit qu'il y a un manque. Et quelque part, bah, quand on parle d'amour, de tendresse, d'affection, on parle aussi d'ancrage, d'estime de soi, de bien-être. Et c'est ce qui fait que, bah, après, on est mieux ensemble, mieux avec les autres. Totalement. Donc, merci, merci les garçons pour ça. Est-ce qu'il y avait des traditions, des habitudes et des moments marquants qui, selon vous, vous ont construit? Parce qu'on est dans une société où, de moins en moins, on doit parler, en tout cas, ce n'est pas qu'on doit en parler, mais en tout cas, dès lors qu'on aborde la religion, la culture, la tradition... Alors que ça fait intégralement partie de qui nous sommes tous. On baigne dans des traditions, dans des cultures, dans des religions ou pas. Mais du coup, comment vous, ça vous a impacté? Comment ça vous a construit? Déjà, est-ce que, sans forcément rentrer dans le détail de vos religions, sauf si vous le souhaitez, mais en quoi ça vous forge, en quoi ça vous construit d'avoir justement ce modèle de tradition, de culture ou de religion dans ce que vous êtes aujourd'hui?
Moi, je suis musulman, famille musulmane, 100% papa, maman, et on a grandi avec cette religion, et entre guillemets, parce que j'aime pas trop parler de ça, parce que généralement, on mélange religion et culture, qui sont totalement différentes, mais dans la jeunesse, c'est en grandissant, comme je disais à certains, c'est en grandissant que j'ai compris que l'autre, il était juif et l'autre, il était chrétien.
Quand t'es petit, tu sais pas. Mais enfin, toi, à l'époque.
À l'époque. J'allais avec les copains, on allait manger au grec et tout ça, on traînait ensemble, il n'y avait pas ce souci, je ne savais pas, clairement.
Qu'il y avait différentes religions en fait.
Hein. Je ne savais pas, chacun sait, je savais qu'il y a certaines, on avait des potes juifs, il y a des fois ils ne mangeaient pas trop avec nous et tout ça, mais ce n'était pas un problème.
Ce n'était pas omniprésent en tout cas
mais
dans les relations.
Pas du tout, pour de vrai, je ne savais même pas pourquoi ils ne mangeaient pas avec nous. Peut-être qu'il avait des problèmes de santé, son père est venu le récupérer, il n'y avait pas de souci. C'est en grandissant que bizarrement, je ne sais pas d'où ça sort, on commence à avoir des polémiques de « attention, lui, il est juif. Attention, lui, il est musulman. » Ou bien « toi, tu es musulman, mais bizarrement, pourquoi tu traînes avec lui? Pourquoi tu manges avec lui? Pourquoi tu parles avec lui ?» Et heureusement qu'à la maison, ce côté-là n'a jamais pris le dessus. On nous a dit « vous êtes musulman, on vous explique ce que c'est. Et dehors, chacun a le droit d'être ce qu'il est. » Pas ton problème, ça. Par contre, tu dois, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas entendre que tu manques de respect à qui que ce soit et je ne vais pas entendre que tu as fait des bêtises.
En fait, ça prenait le dessus quelque part. En tout cas, dès lors, tes parents t'éduquent en te disant dès lors que tu sors, en fait, c'est le respect de l'être humain, de l'autre et peu importe quoi, fais pas de vagues.
C'est tout. Le reste est musulman, ça te regarde. Comme nous, on te l'a inculqué, comme disait ma mère, et quand je sors, je ne crie pas que je suis musulman. Pourtant, je travaille avec de toutes les religions. Elle est dans une association, il y a tout le monde qui vient. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. On fait les mêmes fêtes avec tout le monde. On est dans le rassemblement. Il n'y a pas de souci. Et ça, depuis que moi, je suis tout petit.
Et d'un point de vue culturel et tradition, pour justement... parce que cette question, elle est vraiment ouverte dans le sens où que ça soit la religion, la culture, la tradition, ça nous forge et c'est ce qui fait ce qu'on est. Et c'est important aussi d'en parler, du coup, de la même façon que tu viens de donner des exemples d'un point de vue religieux, culturellement et traditionnellement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont forgé et qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui ?
Alors, il y a un truc, c'est une coutume qui malheureusement est en train de se perdre chez nous. À l'âge de 15-16 ans, chez nous, chez les Soninké, tu deviens un homme. Donc, il y a une cérémonie, etc. Et vu que nous, on était deux.
Double cérémonie.
Ah ouais, laisse tomber, c'était un truc, t'as mal à la tête et tout ça. Et en fait, cette coutume-là, elle acte quelque chose vis-à-vis des parents. C'est limite plus qu'un mariage. Parce que là, mon enfant, il est devenu grand. Pour eux, c'est qu'il est en capacité de comprendre certaines choses. Il est en capacité, plus ou moins, de se prendre en main aussi et d'assumer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous marque, nous, en tant que jeunes, parce que moi, ça m'a marqué personnellement. C'est qu'à partir de là, tes parents te voient autrement. Et là, ta vision, elle change par rapport à plusieurs choses. C'est que mentalement, tu dis, bizarrement, hein, je ne sais pas si c'est l'effet de la fête qui fait ça, mais je n'ai plus le droit de faire de vagues. Et là, tout change pour toi petit à petit.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, en France, là où... on va dire que ton enfant devient responsable, autonome au fur et à mesure du temps, mais la majorité, elle va être actée à 18 ans. Ouais. N'empêche que ce que tu dis, c'est super intéressant parce que du coup, ces coutumes et ces rituels qui se perdent quelque part, ils venaient aussi un peu responsabiliser parce que même si après, ça, dans la pratique, ce n'est pas au quotidien, mais en tout cas, ça vient marquer le « aujourd'hui, tu es grand ». Et du coup, bah, y a des choses que tu ne peux plus faire, que tu ne peux plus te permettre de faire. C'est super intéressant, merci pour ça. Et du coup, Edgar, je me retourne vers toi et je te pose la même question. C'est, est-ce que culturellement, traditionnellement ou religieusement, y a des temps forts ? Déjà peut-être sous le prisme de la religion, comme l'asana juste avant.
Moi, c'est ma famille... chrétienne, ma mère catholique, mon père, j'ai toujours eu du mal à définir, c'est dans la chrétienté, mais plus côté agnostique, et beaucoup plus proche, en tout cas mon père est resté beaucoup plus proche
de l'ancestralité,
parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon père lui, il est du village, et que ma mère, elle était de la ville. Ma mère, elle a une enfance plus ou moins bourgeoise dans sa jeunesse au pays. Et à partir de là, c'est deux façons un petit peu différentes. D'où le côté dur de mon père. Et d'où le côté, il va pas me dire je t'aime, mais il va nous le
transmettre différemment.
Et puis bon, contrairement à l'asana. Moi, je suis en cinquième position. Donc, lui, il a ce devoir d'exemplarité parce que c'est l'aîné. Et on sait ce que c'est que la position d'aîné dans la culture africaine. Donc, à partir de là, ouais, non, moi, c'est... Il y a eu un cheminement. Hein, le fait de comprendre déjà ce que c'est. Hein, il nous faisait asseoir. Il nous posait certaines questions par rapport à certains passages de la Bible. Il a essayé de nous mettre dans des associations chrétiennes, avec mes frangins, mais on était trop dissipés. Donc, du coup, on n'a pas pu assimiler certaines choses.
Mais est-ce que, tout comme l'asana, quand tu sors de la maison, tu vis un peu avec insouciance le rapport aux autres, le rapport à la religion, etc. Est-ce que, parce que l'asana, c'est un exemple qui, moi, me fait plaisir, en fait, d'entendre ce genre de choses. C'est que quand t'es enfant, quand t'es dehors, il n'est pas censé y avoir de religion, de choix par rapport à une ethnie ou autre. On est juste des enfants, en fait. On sait quelle religion on a, nous, mais on ne vient pas la confrontés aux religions des autres.
Comme je te l'ai dit, nous, on est d'une génération où le vivre ensemble primait, d'autant plus qu'on est une génération où il y avait des politiques comme « touche pas mon pote », des trucs comme ça. Donc, on vivait tous ensemble. Il n'y avait pas d'histoire de... Donc, quand c'était les fêtes chrétiennes, le calendrier fait que on les prenait. Quand c'était les fêtes juives,
Nos voisins juifs, ils venaient chez les voisins, ils rapportaient des plats. Quand c'était les fêtes musulmanes, alors là, ben là, les plats,
il y en avait.
Les plats, il y en avait. Ça toquait chez les voisins. Il y avait.
Se vivre ensemble, en fait.
Se vivre ensemble, il était symbolisé et il était réel. Et ça, je l'ai connu. J'ai connu cette période. J'ai la chance de pouvoir dire que j'ai connu cette période dans cette France d'aujourd'hui. Et on est beaucoup de ma situation, de ma génération, à avoir connu ça. Et même celle d'un petit peu après. Ouais.
Parce que cette insouciance des enfants, en tout cas d'un point de vue de la religion, elle recule. Mais on aura une parentalité sur ces questions-là. Culturellement et en termes de tradition, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ta construction, au niveau des cultures, des traditions congolaises, ou est-ce qu'il y a des temps forts, des choses qui t'ont marqué ou pas spécialement?
Moi, les souvenirs que j'ai plus ou moins de tradition, c'est ce que nous ont raconté mon père, parce que nous, on est mes frères et ma sœur, on est tous nés ici. On n'est pas allés là-bas. Donc, ce que l'on connaît de la tradition congolaise, c'est quand mon père venez les enfants, asseyez-vous. Voilà, et pendant des 2 heures, des 3 heures, il nous racontait sa jeunesse, son père, voilà, et comment ça se passait lui dans son village, l'organisation qu'il y avait. Voilà comment j'ai fait connaissance des traditions. Parce que comme je te disais, au niveau de ma mère, elle devait connaître ça aussi, probablement. Mais c'était autre chose, parce que socialement parlant, elle était d'un niveau plus élevé que celui de mon père.
D'accord. Là, on a beaucoup parlé des parents. Tous les deux, vous avez des fratries aussi. Alors tout à l'heure, Ado, t'as un peu répondu à cette question en parlant du lien privilégié que tu avais avec un de tes frères. Mais quelle était justement la relation avec un exemple, pour pas inhiber tous les autres, mais justement aussi pour vous laisser le choix d'aller là où vous avez envie d'aller. Mais un exemple fort. Tout à l'heure, on parlait d'amour, de tendresse. Souvent, elle n'est peut-être pas démontrée par les parents, mais on a un frère ou une sœur, souvent une sœur d'ailleurs, qui, elle, est clairement dans la démonstration de l'amour, de l'affection, du fait que tu sois important, que tu comptes. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous donner une anecdote ou votre point de vue par rapport à une relation forte que vous avez avec un membre de votre famille? Je dis un pour pas qu'on les cite tous. On fait pas de jaloux, mais c'est vraiment un temps qui t'a marqué. Et peut-être pour toi, Lassana, justement, qui est important de souligner, parce qu'aujourd'hui, t'es papa. Donc, t'as toi-même 2 enfants. Et pour toi, Ado, parce qu'aujourd'hui, avec ta belle-fille, justement, peut-être que demain, tu seras grand-père, qu'il y aura des choses. Et du coup, c'est intéressant de s'arrêter aussi sur le lien fraternel. Lassana.
Nous, on est 5, comme j'ai dit. Et nous, c'est celle qui nous suit. Chez nous, on l'appelle la Sadio. Après les garçons, c'est tombé sur la Sadio.
Elle s'appelle Asa. C'est pas pour rien que Sadio, ma petite sœur s'appelle Sadio. Et après, un garçon.
C'est ça. Et elle s'appelle Asa. Et elle, c'est la démonstration totale de l'amour à la maison. C'est l'amour, comme on l'appelle, c'est la fleur de peau. C'est elle qui va chouchouter tout le monde. C'est elle qui est dans la démonstration excessive du truc. Et c'est elle qui est plus ou moins la deuxième maman, en fait, de la maison. Et puis voilà.
Ouais, merci. Et toi, Edgar?
C'est exactement pareil. Hein. Bon, après, ma sœur, c'est un particulier. Seule fille.
Au milieu de tous ces garçons.
Mais elle vient quand même en troisième position. Donc, c'est pas rien. Et elle a toujours été... À partir du moment où nos parents sont séparés, elle a toujours été un peu l'épicentre de la fratrie, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours elle qui appelait tout le monde. Voilà, on se réunit là. Au début, c'était la maman. Et puis, elle est devenue grand. Donc, ma sœur, elle a 6 enfants. Il y a le plus grand qui a 2... j'ai deux nièces, de par le premier, de par ma sœur, j'ai cinq
neveux et nièces.
Et j'ai mon frère, celui qui est juste au-dessus de moi, j'ai un neveu et normalement, là, il doit avoir un autre.
Donc, du coup, voilà. Et c'est pour ça que... Parce que là, on a parlé de la famille sous le prisme des parents, de la fratrie. Et ma prochaine question, elle est aussi pour mettre à l'honneur, justement, dans cette éducation collective, peut-être un autre membre de votre famille ou de votre entourage qui a été important et qui vous a marqué. Souvent, vous savez, on a ce tonton, cette tata ou cette amie d'un de nos parents ou d'un de nos frères et sœurs aînés, selon la distance qu'il y a entre nous, qui nous a marqué, aiguillé, peut-être des fois... sécuriser, écouter, conseiller, guider. Et je pense qu'on a tous une personne qui n'est pas forcément le père ou la mère, qui a été important. Il y en a ici sur ce plateau qui nous ont dit, ouais, un professeur, un éducateur sportif, quelle est la personne de votre entourage qui vous a marqué et qui a peut-être changé la donne?
Moi, c'est un oncle.
Vas-y.
Le grand frère à ma mère. C'est le deuxième père, tout simplement. C'est le père, le professeur, l'ami, le conseiller, surtout. Et je le remercie parce que lui, il est arrivé en France avant mes parents. Du coup, lui, il est arrivé sur cette génération où plus ou moins tout allait bien et tu avais toutes les possibilités. Et lui, il en a profité. Du coup, connaissances scolaires, professionnelles, tout. Et il nous a pris... comme ses enfants, quoi, tout simplement. Et jusqu'aujourd'hui, 35 ans, la première personne vers qui on s'oriente dès qu'il y a n'importe quel souci, que ce soit familial, mariage, enfant, projet professionnel, investissement, c'est la seule personne qu'on connaît.
Clairement. Il symbolise vraiment cette personne.
Ah oui, c'est... tu vas chez nous, tu demandes une personne à qui faut envoyer la problématique. C'est le seul nom qui va ressortir.
Mmh.
Ah oui.
Merci Lassana. Non. Edgar.
Après, moi, c'est. J'ai pas de. À contrario de Lassana, j'ai pas de personnes comme ça parce que on s'est fait plus ou moins. Tout à chacun, mes frangines, mes frangins. On s'est fait plus ou moins. Un peu seul, ouais. Après, non pas qu'il n'y avait pas d'oncle, ouais. Mais on a pris une distance avec eux, c'est parce que, en fait, quand on était plus jeune, quand mes parents ils sont venus, avec les histoires de regroupement familial, vous savez, t'as des oncles qui viennent, ils ont nulle part où aller.
Ils arrivent là, ouais,
ils c'est sont que hébergés.
Et surtout, vous, donc, les Congolais, vous avez vraiment ce truc... De relais, de zone de passage, en
exactement.
Fait.
Exactement.
Où on accueille les oncles, les tantes.
Et donc, bon, quand on est petit, bon, il se passe des choses. Et quand on grandit, on se rend compte de
certaines choses.
De certaines choses auxquelles il y a des conséquences. Mmh. Les conséquences et au niveau parental, de mes parents donc, mais sur nous aussi.
Mmh, mmh, mmh.
Et du coup, ça a généré pas une très bonne image. Du tonton,
oncle, tante, ouais.
Du tonton, tu vois. Et malheureusement, ça se ressent aujourd'hui. Mmh. Moi, au niveau de
ta construction,
de ma souche familiale, même au niveau de la fratrie, par rapport les oncles, donc les frères de ma sœur, par exemple, par rapport à ses enfants, nous. Par rapport aux deux nièces,
la place de l'oncle, elle est du coup un peu marquée, en tout cas par quelque chose qui...
Bah, elles ressentent, elles ont une image de l'oncle comme nous on pouvait avoir des images de l'oncle.
Ouais,
et donc okay. Ça veut dire que je sais pas si c'est inconsciemment ou consciemment, mais on a reproduit cette mauvaise image que nous avions, nous, de nos propres oncles.
Et du coup, si on élargit et qu'on sort du côté familial, est-ce qu'il y a une personne qui, pour toi, a compté et a changé un peu la donne? Ça peut être un ami, ça peut être un professionnel, personne forte, une seule personne, par exemple, qui pour toi, en tout cas, à ton sens, t'a apporté dans l'homme que tu es aujourd'hui.
Oui, il y, 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 Il y a du monde, parce que bon, te dire que j'aurais évolué tout seul, ce serait mentir. Non, j'ai évolué avec énormément de monde, parce que, et en même temps, dans le cursus dans lequel j'étais, même si c'était les conneries, mais j'ai retenu des choses. Il y a certaines personnes qui m'ont apporté, malgré qu'on faisait certaines choses, on avait beaucoup de discussions philosophiques. Une petite anecdote, tout à l'heure, on a vu un type, dès le matin, qui était déjà... Je suis passé par là aussi. Mais dans ce contexte-là, entre nous, on avait beaucoup de discussions d'ordre philosophique où ça t'amenait à réfléchir. Mmh. J'ai toujours été un peu famille, donc... Mon cousin de Sevran.
Voilà, c'est ça, t'as des cousins.
Mon cousin de Sevran a été important. Mon cousin de Cergy, il a été important. Mon cousin de Fontenay, il a été important. Parce que j'étais beaucoup sur Fontenay aussi. Parce qu'à un moment donné, je quittais mon secteur, tu vois. Parce que c'est le contexte politique des communes de la ville. Donc moi, je suis d'une ville qui était communiste pendant 70 ans. Fontenay aussi, il y avait beaucoup de via les associations de programmes
en commun
interville et tout ça, donc voilà, ça j'ai fait des rencontres, j'ai bougé et ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que tu rencontres un autre contexte, tu vois d'autres choses, ça te permet ta réflexion, comme il disait Lassana, quand le fait qu'il ait bougé et qu'il ait vu par exemple que il voyait des gens se tenir main dans la main, chose qui se faisait pas dans nos environnements, ça t'amène à te réfléchir. En plus, bon, ben, on est une génération où le raccourci ne primait pas. On était plus encore sous un couvert de littérature, donc on t'amenait plus à l'excellence que l'abrutissement comme qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et forcément, il y a eu des personnes qui...
ont été impactantes pour toi, en
oui,
tout cas.
Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Même au niveau de... Même au niveau des potes de mon grand frère. Parce que à travers certains, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Parce que je les ai vus en prime, comme on dit, au niveau des bandes, quand c'était chaud. Et... j'ai vu l'évolution. Quand j'ai vu, je dis, oh, mais lui, il a un travail, il s'est marié, mais pourtant, il cassait la figure à tout le monde. Tu vois ? Il faisait v'là les conneries. Mais je le vois évoluer, voilà. Il trouve une femme, il se range, il trouve un travail. Et comme j'étais plus attiré par ça, c'est ça qui fait que je me suis rapproché de mon grand frère qui était dedans, lui aussi. Et c'est ça qui m'a... En tenant compte aussi de certaines phrases que disait mon père par rapport à son parcours, lui. « Ah, vous les enfants, il y a la police qui m'appelle, moi, ça fait tant de temps que je suis en France, j'ai jamais appelé la police. Tout ça, quand ça s'entremêle, tu réfléchis, tu te dis... Oui, tu vois, et puis en plus, bon, ben... Tous autant que nous sommes, nous avons une conscience. Et c'est-à-dire que tu n'aies pas la notion du bien et du mal, quand tu vas faire une action, ta conscience, elle l'a d'office. Et donc, à un moment donné, tu sauras, il va y avoir un déséquilibre dans ton intérieur. Et tu prends le temps de réfléchir, tu te dis, ouais, quand même, à un moment donné, quand tu es face à toi-même, tu sais, ça, c'est difficile. Et de s'avouer certaines choses... Ça,
c'est pas simple.
C'est encore plus violent que si tu recevais une claque ou... Tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, faut pas se mentir à soi-même. Faut pas se mentir à soi-même. Et à travers ces personnes... effectivement, ça m'a permis d'être plus haut au niveau de la réflexion et de comprendre aussi.
C'est pour ça qu'on dit bien qu'il y a la famille, il y a la fratrie, etc. Et puis, il y a soit dans la famille ou en dehors de la famille, des personnes qui sont importantes et qui ont largement contribué à rééquilibrer un peu les choses, là où des fois la communication va être rompue ou là où des fois la démonstration ne va pas forcément nous convenir à un instant T. Mmh. Pour finir cette première partie et se retrouver dans la partie 2, j'aimerais vous poser une dernière question, les garçons. Quelle phrase, quel regard ou quel geste t'a marqué venant d'un parent ou d'un proche? Toi, tu vois, tu viens de le dire indirectement dans l'anecdote quand tu disais, ton père, il disait, bah, mais moi, on ne m'a jamais ramené à la police, on ne m'a jamais rien ramené. Et du coup, ça fait partie, ça, des phrases, des anecdotes, des choses qu'on a pu te dire qui t'ont marqué.
Bien sûr.
Est-ce que, Lassana, tu as un exemple de... En tout cas, est-ce qu'il y a une phrase qui te revient comme celle que un de tes parents ou un de tes proches n'arrêtait pas de te marteler, qui reste.
Là, comme ça, y a pas une phrase qui me vient comme ça, mais je pense que
ou
c'est
un regard, hein, ou un geste, quelque chose en tout cas qui t'a marqué.
Genre, je pense que une action qui m'a marqué, c'est en étant plus jeune, parce que nous on a avec mon frère, hein, quand je parle, on était, c'est notre départ pour le sport.
Okay.
Et quitter la famille. Et je pense que le regard de ma mère, c'était compliqué.
Parce que du coup, toi et ton frère, vous avez embrassé le sport et vous avez quitté la maison par le biais du sport.
Exactement.
Et là, tu dis que là, dans le regard de ta mère, il y a quelque chose qui se passe. Qui
c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Sachant que mon frère, il est parti avant moi. Il est parti vers peut-être 14 ans. 14 ans, 15 ans. 15 ans peut-être. Moi, je suis parti peut-être un an ou deux ans après. C'était chaud. Ah, c'était chaud. Et elle m'en parle encore aujourd'hui. Hein. C'était chaud.
Vous avez fait sport études, c'est ça?
Ouais, on est parti en centre et tout ça. Mais c'était dur.
C'était dur.
Et encore une fois, pour revenir à une personne qui nous a marqué, c'est cet oncle-là
qui a
tout fait pour aider mon frère à partir à 13-14 ans.
C'est parce lui que qui c'est l'a pas gagné.
C'était compliqué. Ma mère, elle voulait pas.
Bah oui.
Elle ne voulait pas et c'était pas... Bon, déjà, c'était les études, forcément. Mais elle ne comprenait pas qu'il y avait les études. Mais vu que c'était biaisé par le fait qu'il quitte la maison, elle n'entendait pas qu'il y avait les études avant le sport. Et après, quand moi, j'ai décidé de partir, c'était...
Ah, c'est le double peine.
C'était dur. Mais ouais, ce regard-là, tu te dis, ouais...
Tu l'oublieras pas, quoi.
Non, t'as blessé ta mère, mon gars.
Tu l'as blessé, mais en fait... c'est même pas sans le vouloir, mais tu l'as dit toi-même. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'études, un projet de carrière derrière, etc. Donc, c'est juste que comment on a préparé nos parents justement à ces éventualités ou pas, selon des environnements d'où on vient.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette option. Ton enfant mineur, il va partir étudier loin de toi, etc. C'est une option qu'ils n'ont même pas en tête. Donc, forcément, quand elle se présente à elle, c'est...
Et je dirais surtout pas maintenant. Enfin... Ce sont mes bébés, quoi. 14-15 ans, ils n'ont encore rien fait. Et ce n'est pas le regard de dire « je ne veux pas que tu partes ».
Non, c'est mes deux premiers bébés
vous avez encore besoin de moi, j'ai encore besoin de vous. Je sais que c'est pour votre bien, mais mon cœur ne peut pas l'accepter, en fait.
Et en même temps, c'est marrant et paradoxal parce que on parlait de nos origines, de nos traditions, etc., du rituel des 15 ans qui martèle que tu es un homme. Donc, en fait, quelque part, c'est comme si tu pars pour te marier, avoir ta propre famille et tout, c'est OK, on est conditionné à ça.
Exact.
Par contre, partir dans un autre cadre, bah, pour une fille comme pour un garçon, nos parents ne sont pas préparés, quoi.
C'est incompréhensible pour eux. Ils ne comprennent pas. Bah, ils ont grandi, généralement, pour la plupart de nos parents, en Afrique, dans une cour commune. Tu te maries, tu restes à la maison, il y a ta famille, et puis on est là, et puis il n'y a pas de problème, hein, t'inquiète pas, il y a une chambre ici, tu vas nulle part.
On a déjà fait ta chambre pour l'après. Ouais.
C'est exactement ça.
Merci Lassana. Edgar, est-ce qu'une phrase, un regard, un geste qui t'a marqué?
Une phrase que mon père nous disait quand il a vu que qu'on s'intéressait, qu'on aimait beaucoup le rap et qu'il a vu les clips où on commençait à voir les femmes et tout ça, il nous disait, les enfants, les femmes, ayez une situation et vous aurez des femmes.
Ah, voilà.
Et il entendait par là un travail, professionnellement, être stable positionner et le reste en découlerait de source. Il parle de choses qui savait, c'était pas encore palpable pour nous parce qu'on était dans un dream, tu sais, on voit les Américains, le rêve américain, les clips, ça nous a pris, tu sais. Surtout ma génération avec des films comme Colors, après des Menace to Society, des Bones in the Hood, nous ça nous a pris dedans, tu sais, on a été dedans, donc
ça c'est quelque chose qui t'a marqué.
Complètement.
Bah, merci en tout cas les garçons pour cette première partie. On se retrouvera pour justement parler des hommes que vous êtes aujourd'hui et de comment ça vient se traduire dans vos parentalités. Merci d'avoir partagé vos histoires, vos vérités, vos parcours. Ce podcast nous rappelle que quel que soit notre niveau social, culturel, ethnique ou religieux, nous traversons tous les mêmes émotions finalement. Être parent, c'est apprendre chaque jour, c'est tomber, c'est se relever, aimer encore et encore. Et du coup, à toutes et celles qui nous écoutent, prenez soin de vous, de vos enfants, de vos racines, de votre histoire. Parce qu'éduquer, c'est avant tout aimer. Et on se retrouve tout à l'heure pour enregistrer la deuxième émission. À plus tard. Ciao.
Ciao.